Salut à tous et bienvenue dans Tech Café. Nous enregistrons aujourd'hui le 87e épisode. Nous sommes le 22 mai 2018. Pour ceux qui ne connaissent pas Tech Café, c'est un podcast où on parle évidemment de tech et de ses usages. Le site internet techcafé.fr où vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions, l'ensemble des liens qui concernent le podcast. Et puis, bien entendu, c'est l'endroit où vous pouvez réagir à chacun des épisodes en déposant un petit commentaire sous chacun des articles qui est en lien avec chacune des émissions. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite évidemment à rajouter l'émission à votre lecteur de podcast. Je suis ravi de vous retrouver, je suis Guillaume Vendée, je suis accompagné pour ce 87e épisode de Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ?
Eh ben ça va très bien, merci, et vous-même ?
Moi-même également, très bien. Je suis en train de surveiller du coin de l'œil l'enregistrement de notre logiciel là qui nous permet d'enregistrer nos voix. On a dû s'y reprendre à 3-4 fois avant que je me rende compte que le fichier était trop zoomé en arrière, que je voyais pas la barre de défilement, mais tout a l'air de plutôt bien se passer. On a pas mal de news qu'on a compilées, et beaucoup de choses qui ont été compilées par Guillaume Poggiaspala pour ce 87e épisode. On a des choses qui tournent autour de la robotique, de l'intelligence artificielle, d'algorithmes. Bon, c'est des sujets qu'on a l'habitude de traiter dans Tech Café, évidemment. On vous trie tous ces sujets-là tels qu'ils se sont déroulés cette semaine, et puis on les commente avec vous. Sans autre forme de procès, on commence avec une première partie que tu as intitulée Ghost Ex Machina, avec donc un premier élément où on va peut-être revenir sur la démonstration de Google Duplex. On le rappelle, hein, la présentation visait à faire la démonstration d'un algorithme qui appelle un professionnel pour prendre rendez-vous en lieu et place de l'utilisateur d'un smartphone, qui a donc mandaté l'assistant Google, qui appelle physiquement le professionnel et qui prend le rendez-vous pour le coiffeur ou pour d'autres professionnels d'ailleurs. Alors les premières réactions avaient été mitigées, dans le sens où c'était une belle démonstration technologique, mais en même temps il y avait des craintes, on en a un petit peu parlé évidemment. Et puis derrière, assez rapidement, Google a confirmé que l'utilisation de ce type de technologie amènerait à ce que l'assistant se présente au tout début. Ce serait obligatoire et systématique, ça aussi on en va un petit peu parler. Et puis la législation française impose encore plus que quand les appels sont émis depuis la France, donc il faut savoir si c'est l'assistant qui part des États-Unis ou de la France, de l'origine du smartphone de l'utilisateur, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais ça peut changer un petit peu la manière dont doit se présenter cet assistant. Bref, tout ça pour dire que c'est un sujet dont on n'a probablement pas fini d'entendre parler. Et puis même, on en a entendu parler sous des regards un petit peu douteux, un petit peu limite conspirationniste, Guillaume.
Ben ouais, tu vois, il semblerait que la présentation de Google Duplex ait fait vraiment forte impression, à tel point qu'une mini-théorie de la conspiration serait en train d'émerger sur la véracité de cette démo. C'est le site Axios qui s'est étonné le premier de ce qu'aucune boutique ne s'identifie, alors que le font généralement systématiquement, et de ce qu'aucun bruit ambiant n'est jamais audible. De plus, l'interlocuteur ne demande jamais de numéro de téléphone, par exemple. Et alors qu'Axios a lui-même téléphoné à plusieurs salons pour voir un petit peu quelles étaient les procédures les plus courantes. Bon, alors c'est pas très convaincant comme objection, hein, mais l'absence, en tout cas jusqu'à l'heure où nous enregistrons, de réponse de Google a, semble-t-il, suffi à faire douter quelques personnes, à tel point que la question « la démo de Duplex est-elle bidonnée ?» est revenue en titre de plusieurs sites assez connus, et bon, alors, ce qui me concerne, comme le ton que j'emploie peut le laisser supposer, je suis pas du tout convaincu par cette théorie. Je pense qu'il est probable que les appels aient été édités, ça certainement, pour éliminer les parties non pertinentes en particulier. Il me semble normal, d'ailleurs, que les noms des commerces aient été enlevés. De même qu'il me semble évident que Google a présenté les meilleurs cas, et pas ceux où, par exemple, je sais pas moi, le bruit de sèche-cheveux aurait complètement foiré le Duplex, quoi. Bon, alors, n'oublions pas quand même que Google souhaite déployer la fonction cet été, et alors, s'ils avaient pas été capables de le faire, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils auraient présenté une démo maintenant, rien ne les pressait, après tout. Donc voilà, donc ce qui est remarquable, c'est que finalement, les suspicions montrent à quel point la démo a impressionné, finalement, au point d'être considérée comme trop belle pour être vraie.
Ouais, il y a plein de questions pratiques hein, quand on en parle autour de nous de cette techno-là, notamment de dire est-ce que l'assistant il téléphone en arrière-plan et on l'entend pas, donc sur les serveurs, ou est-ce qu'on peut entendre la conversation, enfin plein de petites choses sur un aspect très pratique. J'ai l'impression effectivement que ça a passionné, et j'ai l'impression que la raison pour laquelle ça passionne, c'est parce que ça parle à tout le monde. La démo se suffit à elle-même pour qu'on comprenne tout de suite ce que ça promet. C'est qu'on a tous envie d'être débarrassés d'appels inintéressants. Et en même temps, ça nous fait flipper de les confier de manière aussi totale à des assistants virtuels. Et puis, un des éléments aussi, probablement, qui fait que qu'on en parle beaucoup, c'est que tu as raison, ça va arriver vraisemblablement très vite. Donc, ça va pouvoir être testé. J'ai le sentiment quand même que ça va faire partie de ces innovations dans la tech qui font un peu date et qui font un petit peu symbole des avant-après des technologies. Donc, on suivra évidemment ça ensemble. Je rejoins à 100% ton avis. Je suis à peu près certain que Google a fait énormément d'essais et n'a ressorti que les meilleurs cas, et d'ailleurs les a peut-être aussi édités. Et puis c'est quand même rigolo de se dire que ça peut être des faux appels parce qu'il n'y aurait pas de bruit de fond, alors que quelques semaines auparavant on montrait des technologies où au contraire Google montrait des algorithmes qui permettaient très 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 bien d'isoler une voix d'un environnement de fond sonore. Et du coup ça fait, je trouve d'ailleurs, vachement sens, je sais pas si tu te rappelles de cette news qu'on avait abordée, hein, de l'algorithme qui arrivait à filtrer les sons d'arrière plan. Je sais pas si c'était l'émission avec Pierre-Olivier ou avec toi, Guillaume, mais du coup, ça donne encore plus de sens à ce type de technologie, puisqu'on imagine que Google Assistant, il faut que les conditions d'audition soient optimales pour qu'il comprenne bien ce que dit la personne au bout du fil, par exemple. On enchaîne du coup avec toujours les assistants virtuels, avec Microsoft qui veut pas être en reste et qui veut renforcer Cortana, et même Samsung qui veut faire évoluer son assistant qui laisse encore pas mal de monde songeur parmi les utilisateurs, j'ai l'impression, à savoir Bixby. Où est-ce qu'on en est du côté de chez Microsoft et Samsung, Guillaume?
Mais ouais, d'ailleurs, c'est la concurrence, et ici, c'est en l'occurrence, ouais, c'est Microsoft et Samsung. Il va falloir tenir la cadence après Google. Et c'est sans doute dans l'optique d'améliorer les facultés de langage de Cortana que Microsoft vient de racheter Semantic Machine. C'est une petite compagnie californienne qui est basée à Berkeley. Une partie du staff est d'ailleurs constituée de profs à l'UC Berkeley et de Stanford. C'est des gens qui, enfin, c'est plutôt des pointus, hein, puisque certains ont participé à l'élaboration de Siri, de Google Now. Le but, c'est de passer d'un mode de fonctionnement en commande, qu'on connaît très bien, hein, sur les Google Now, sur les Google Assistant et ce genre de trucs, à un mode plus conversationnel. On pourrait dialoguer avec la machine de manière plus naturelle, comme avec un humain, quoi. La machine pourrait aussi nous demander des précisions si elle en a besoin, etc. Et alors, on se rappelle d'ailleurs que c'était la promesse de Vive, qui est l'ancêtre de Bixby, puisque Vive a été racheté par Samsung pour en faire son propre assistant.
Qui avait été lui-même conçu par les concepteurs de Siri, d'ailleurs.
Exactement, les concepteurs de Siri qui ont fait leur propre boîte. Donc Bixby n'est pas particulièrement impressionnant en l'état, mais comme tous ses services, il évolue, et sa prochaine itération viendra avec d'ailleurs le prochain Galaxy Note, hein, le Galaxy Note 9, qui s'équipera de Bixby 2.0, ça sera pour le second semestre 2018. Bon, alors il devrait être plus réactif, moins sensible au bruit ambiant, et avoir en général une meilleure compréhension de ce que tu lui racontes. Il se prépare aussi pour son grand saut dans l'écosystème connecté de Samsung, hein. L'objectif, c'est 14 millions d'objets avec Bixby dedans avant la fin de l'année, et c'est qu'un début. Donc il n'y a pas d'annonce précise sur le côté conversationnel. Par contre, c'est parce que c'est clairement quand même un problème très difficile. Mais bon, tout le monde est dessus, et il est clair que d'ici quelques années, les assistants auront de la conversation. Peut-être même plus que ton voisin de palier, va savoir.
Oui, probablement plus. Et peut-être plus poli. Suivez mon regard. Du coup, on enchaîne un petit peu avec la programmation d'un robot. Alors, on sort un petit peu de l'assistant virtuel tel qu'on le conçoit avec Google Assistant, Siri et compagnie, évidemment. Mais on essaie de s'intéresser un petit peu à la manière dont on va programmer un robot. Guillaume, il suffirait, a priori, de lui montrer comment faire.
Oui, Nvidia a développé une méthode pour que les robots puissent apprendre des séries d'actions rien qu'en regardant un humain faire. Alors évidemment, c'est super pratique, hein, parce qu'aujourd'hui, dans une usine, pour changer la routine d'un robot, il faut un expert qui le reprogramme et qui le teste pendant un temps certain quand même. Et donc, ça sera un gain de temps énorme et un gain de flexibilité vraiment très appréciable. Parce que n'importe qui, en fait, pourrait lui montrer la nouvelle procédure. Nvidia interface plusieurs modèles, hein, pour les reconnaissances de forme, l'inférence des actions effectuées, le programme à implémenter, etc. Et pour apprendre à tester des modèles, les chercheurs se sont appuyés sur le SDK Isaac, dont on avait déjà parlé ici, on avait déjà évoqué. C'est une sorte de matrix pour les robots. Donc, je rappelle, c'est vraiment, c'est ça, c'est un environnement en 3D. virtuelle, donc créée par les GPU de Nvidia, qui sont donc totalement contrôlés par les chercheurs, et dans lesquels les robots virtuels s'entraînent sur des objets virtuels. En fait, on peut comme ça entraîner et générer des ensembles de données qui sont très bien labellés, qui sont très bien normalisés, et tout est contrôlable, et on peut faire des milliers et des milliers d'itérations pour que les robots s'entraînent tout seuls, de manière quasi gratuite, puisqu'il n'y a pas à faire, il n'y a pas à créer un protocole, avoir de l'espace, des objets, etc. Donc c'est extrêmement pratique, et c'est clairement un truc d'avenir, ouais.
Ah bah tant mieux. Du coup, j'avais vu passer cette petite news de Facebook qui montrait comment ils entraînaient des intelligences artificielles avec des chasses au trésor virtuel. J'avais le sentiment à chaud, et dans le cadre de la préparation de l'émission, mais avec du recul, je pense qu'on est quand même sur des sujets assez différents, qu'il y avait des parallèles à faire avec cette méthode d'apprentissage. L'idée là, c'est très visuel, hein, vous pourrez aller regarder la vidéo avec le lien dans les notes de l'émission. Mais c'est donc chez Facebook où ils ont développé une intelligence artificielle qui apprend sur la base d'un logement virtuel où certains objets ont davantage de chances de se trouver. Ben oui, parce que par exemple, nous, on aurait tendance à penser assez naturellement que la voiture est dans le garage, mais c'est pas forcément évident pour l'intelligence artificielle, mais qui va très très vite l'apprendre au travers de différents parcours, et après pouvoir creuser, par exemple, nous dire de quelle couleur est la voiture, où est la table basse, etc., etc. J'arrive pas à me rendre compte. En fait, j'ai touché du doigt cette news et je l'ai mise parce qu'elle était en rapport avec ce que tu avais indiqué, selon moi, hein, sur la programmation d'un robot. Mais est-ce que je fais un parallèle un peu hâtif, Guillaume, parce que je vois finalement pas trop en quoi c'est quelque chose de particulièrement révolutionnaire, cette histoire.
C'est révolutionnaire parce que c'est dans un environnement virtuel, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller dans une vraie maison et de faire un vrai robot. Si tu veux faire un robot, normalement, t'es obligé de le fabriquer, quoi. Donc c'est de l'électronique, c'est de la mécanique, c'est compliqué, c'est cher. Après, il faut aller dans des maisons, ou alors il faut construire des décors, tout ça, c'est coûteux et c'est cher. Alors que si tu fais des robots virtuels que tu programmes pour se balader et apprendre dans un environnement virtuel, ça coûte pratiquement rien. Et effectivement, c'est un petit peu la même idée, quoi. Ce truc de Facebook, c'est un petit peu la même idée que Isaac chez Nvidia. Et oui, clairement, les chercheurs vont de plus en plus utiliser de la réalité virtuelle au sens propre, hein, puisque pour le robot virtuel, ce sera l'unique réalité, hein, en réalité, tu vois, ce sera sa réalité à lui. Donc on va utiliser des réalités virtuelles pour entraîner des robots virtuels, et une fois que ce sera fait, il n'y aura plus qu'à fabriquer un vrai robot, et il sera déjà entraîné et prêt au combat.
Ouais, donc ça fait gagner du temps et ça évite de dépenser des coûts dispendieux au préalable. Bon, on enchaîne avec les algorithmes d'intelligence artificielle toujours bluffants. J'aime beaucoup ces exemples-là. Là, encore une fois, allez voir dans les notes de l'émission, tout est cliquable, hein. Vous allez pouvoir aller regarder, et surtout, ce sont des vidéos, donc ça ne gâche rien. Et alors, ça nous promet quelque chose d'assez dingue, c'est de sublimer vraiment le rendu des photos en basse luminosité, notamment de nos smartphones, mais même de manière générale, je pense à tous les capteurs qui peuvent être équipés aujourd'hui dans l'industrie, ou même les appareils photo classiques. Je pense que ce type d'algorithme doit vachement aider. On peut peut-être faire un tout petit rappel avant. Prendre une photo pour un smartphone ou pour un appareil photo, c'est engranger de la lumière. Et évidemment, quand on parle de photos en basse luminosité, c'est qu'il y a très peu de lumière à capter. Donc, il y a deux méthodes pour prendre une photo quand on est en très basse luminosité, autre que le flash, puisque ça c'est un peu de la triche, quoi. On ajoute de la lumière. Et ce serait soit il y a une solution, c'est de capturer la lumière très 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 longtemps et sans bouger. Mais évidemment, il y a deux limites à ça, c'est que si on bouge, ça fait des flous, puisque en prenant la lumière très 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 longtemps, si l'appareil bouge en cours de route, ça produit des images floues. C'est un des flous en photographie qui peut être généré. Ou l'autre problème qu'il peut y avoir, c'est le bruit. Donc ça va toucher directement à la sensibilité de l'appareil photo. À l'époque, c'était la sensibilité des pellicules, mais maintenant c'est la sensibilité des capteurs tels qu'on les règle. Et ça va générer une espèce de bruit. On le voit, hein, sur certaines photos quand on est en basse luminosité, une espèce de grain blanc, jaune, violet, selon les situations, qui montre que la lumière a été artificiellement capturée, ou en tout cas accentuée à pas mal de niveaux. Donc ça dégrade un peu le rendu de l'image. Et là, roulement de tambour, il y a encore une fois une solution avec un algorithme d'intelligence artificielle qui est vraiment bluffant, Guillaume.
Bah oui, bah, enfin, heureusement, en même temps qu'il y a encore des raisons d'acheter un Reflex par rapport à un téléphone mobile, quoi, tu
ouais,
vois.
C'est clair.
Sinon, c'est pas du jeu. Déjà que les compacts sont morts.
Faut compenser l'encombrement.
Et ouais, les compacts sont morts. Enfin, plus personne n'a de compact, je crois. Hein.
C'est
les gens utilisent leur téléphone mobile. Tu vois, soit t'as un téléphone mobile, soit t'as un Reflex. Et les Reflex, effectivement, bah, ils ont aucun des problèmes des téléphones mobiles qui sont globalement, effectivement, la focale fixe, la sensibilité du capteur qui est souvent pas géniale. Et qui ont souvent d'ailleurs une ouverture fixe. Les appareils, tu vois, peuvent pas ouvrir ou plus ou moins selon les conditions. Et du coup, effectivement, pour des raisons évidentes de coût et d'encombrement, bah, c'est pas facile d'améliorer tout ça. Par contre, la partie software, elle peut se révéler déterminante. Le traitement des données brutes du capteur peuvent donner des images très différentes. Hein. Il suffit de voir la différence entre un pixel et certains téléphones d'entrée de gamme qui partagent pourtant le même capteur photo pour voir que la partie logicielle est d'une importance capitale. Et avec le deep learning, elle pourrait même résoudre prochainement hein, les problèmes de sensibilité carrément en faible lumière. L'idée est relativement simple, hein, c'est montrer un réseau de neurones des couples d'images de nuit, enfin, en tout cas en faible lumière, l'une avec une exposition courte et l'autre avec une exposition longue. Donc, en fait, il va, comme ça, apprendre les types de défauts qui peuvent apparaître avec le manque de lumière. Et ensuite, ben, il suffit de le mettre en mode créatif. On va lui montrer des photos, qui sont en général des photos assez bruitées ou assez mauvaises. Et donc c'est donné par un capteur photo trop peu sensible par exemple, et il va l'associer à la même photo sans bruit. Il va imaginer quelle serait cette photo sans bruit. Alors je sais, hein, il existe déjà plein d'algo pour débruiter les scènes sombres, mais là la qualité des résultats est vraiment sans commune mesure. Hein. C'est impressionnant, on dirait des photos prises au réflexe, quoi. Donc c'est très prometteur parce que une fois entraîné, le modèle peut fonctionner sur des téléphones. Et c'est d'autant plus vrai que de plus en plus de téléphones s'équipent de puces labellées IA, tu sais, ces fameuses puces qui accélèrent les traitements de machine learning. Donc ce serait pratiquement gratuit au niveau du traitement sur ces machines de faire ce genre de truc, et ça permettrait d'avoir des photos de nuit aussi bonnes que si t'avais un appareil photo de 2 kilos, ce qui est quand même vraiment très 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 sympa.
Tu m'étonnes. Bon, pour être complet, parce que je pense qu'on aura peut-être des commentaires à ce sujet-là, il existe encore des compacts. Enfin, il y a Fuji notamment qui propose d'excellents appareils qui ont pas mal de succès, les X-Pro et X-Pro 2 et compagnie, là, enfin, qui sont vraiment des appareils assez incroyables avec une très bonne qualité, mais effectivement, ça concerne un certain public vraiment très averti sur la photo. Je trouve ça vraiment hyper marquant, voir que j'ai le sentiment depuis maintenant 2 ans, alors moi ce qui m'a sauté aux yeux c'est le mode portrait de l'iPhone, mais je manque forcément énormément d'innovations similaires. J'ai le sentiment qu'on bascule dans un monde où jusque-là on se disait que l'innovation dans la photographie des smartphones allait passer par des perfectionnements sur le plan matériel, sur les lentilles, sur les capteurs, sur différentes manières d'interagir avec la lumière. Mais je me rends compte à quel point maintenant le champ d'amélioration il est sur le plan logiciel, sur le plan de l'intelligence artificielle. Et même, on arrive, enfin c'est vraiment bluffant, c'est à recréer des effets photographiques. Je pense évidemment à l'effet bokeh, au mode portrait de pas mal de smartphones, dont le Pixel. Mais du coup, ça aussi, cette génération d'images en basse luminosité, je trouve ça incroyable de voir les bons qui vont arriver en termes de qualité d'image uniquement, vraiment, encore une fois, avec des guillemets uniquement, parce qu'il n'y a pas que ça, mais grâce à l'aspect logiciel. C'est vraiment génial, je trouve, ça laisse de très belles perspectives. Et même, si on s'amusait avec Paint à masquer des petits morceaux d'image, tu pourrais presque nous trouver une solution pour régénérer ces morceaux d'image, Guillaume.
Ben moi non, mais Nvidia, oui, c'est ça qui est fabuleux. C'est un petit peu dans la même veine des applications qui sont vraiment visuellement impressionnantes du deep learning. Nvidia donc propose un modèle capable de corriger les photos endommagées. Et alors quand je parle de photos endommagées, je parle pas de petites poussières, de petits trous, de petites griffures.
C'est rigolo à regarder.
Je parle de ton petit neveu qui barbouille ta photo de mariage comme un possédé avec son feutre mauve, tu vois.
Avec Paint.
C'est à peu près ça. Voilà, ou alors qu'avec Paint, c'est qui s'excite avec Paint dessus, quoi. D'ailleurs, les chercheurs ont utilisé ce genre de choses, c'est-à-dire ils ont utilisé 55 116 masques de différents coups de feutre aléatoires pour entraîner le réseau. Et résultat, bah écoute, il y a un modèle, ils ont trouvé un modèle qui remplace des morceaux entiers d'images de manière pertinente. Donc par exemple, bah il remplace des livres par des livres, il y a une bibliothèque, et bah si vous faites une grosse trace au marqueur dessus, il remplacera les livres par des livres. Et si vous enlevez un œil à un mannequin, bah il remplacera un œil pour un œil, et je suppose une dent pour une dent. C'est vraiment impressionnant, et ils ont ajouté un filtre supplémentaire d'ailleurs qui permet de normaliser la teinte et la luminosité du morceau d'image qui est halluciné par le réseau avec le reste de l'image traitée, et le résultat est vraiment bluffant, ouais.
Ouais, c'est rigolo. Alors d'ailleurs, on disait en préparant un petit peu l'émission, moi les images, j'en ai déjà vu des similaires. Je me demandais si on n'avait pas déjà vu cette news sous une autre forme. Et puis tu disais à juste titre qu'il y a probablement des sets d'images type d'NVIDIA qui leur servent pour toutes leurs démos. Donc notamment cette bibliothèque qui moi m'avait déjà marqué. J'étais convaincu de l'avoir déjà vu. Peut-être que j'hallucine moi aussi à la limite. Mais c'est très bluffant. Ça fait vraiment penser à cette espèce d'effet qui a déjà été présenté par Adobe dans le cadre de d'outils liés à Photoshop, où encore une fois vous passez un gros coup de marqueur sur une zone de l'image, vous la redimensionnez, il recalcule la photo, cette somme de trucs devient très impressionnant. On sent d'ailleurs que les mecs qui font la démo, et je suis sûr qu'ils se marraient à la fin de la vidéo, parce que il y a certains visages qui sont recomposés, on voit qu'ils trippent les mecs. Enfin moi je serais à leur place, je serais en train de me marrer, ça c'est clair. Ultime question, est-ce que tu as un problème avec un petit neveu dans ta famille, Guillaume?
Ben non, écoute, non, pas de petit neveu, non.
D'accord. T'as eu un problème dans plus petit avec un petit cousin, un truc comme ça, qui aurait massacré tes photos? Non, même pas.
No
pas de mauvais souvenirs.
No comment.
Bon, allez, un dernier coup de chapeau à nos intelligences artificielles et à ces merveilleux algorithmes. Un peu moins visuel, en tout cas sur la promesse, parce que la démarche peut encore une fois être constatée dans l'article, les liens dans les notes de l'émission, avec l'intelligence artificielle qui serait capable, alors là, tenez-vous bien, de revoir le principe de la théorie du chaos, qui vise à justement nous montrer qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas déterminer parce que le nombre de facteurs est trop important. Et là, c'est la news qui m'a, je dirais, le plus impressionné ces derniers temps sur l'intelligence artificielle. Il faut rappeler peut-être, Guillaume, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que c'est que cette espèce de théorie du chaos, peut-être mise en application, je ne sais pas, de la météo.
Oui,
enfin, c'est ce qui vient en premier.
Ouais. Oui, tu as raison. Oui, pour moi, c'est aussi beaucoup. Enfin, pour moi, c'est aussi beaucoup plus impressionnant que tout le reste, en fait. Hein. C'est presque un miracle en réalité, parce que finalement, c'est quoi un système chaotique? On rappelle que techniquement, un système chaotique, c'est un système physique qui est déterministe, hein, donc qui a priori, on peut déterminer son évolution sans aucune ambiguïté, étant donné uniquement ses conditions initiales, donc son évolution dans le temps, mais qui part en couille exponentiellement vite. C'est ça le terme technique.
C'est la définition parfaite qu'il faudrait mettre dans Wikipédia.
Exactement.
Part en couille exponentiellement vite.
Donc, alors qu'est-ce que ça fait? Ben du coup, ça fait de sorte que toute minime imprécision dans les mesures des conditions initiales se transforme rapidement en des écarts énormes. Or, comme on peut jamais mesurer un truc avec une exactitude absolue, ben on est foutu. On utilise toujours cette image de l'effet papillon. Hein. C'est-à-dire le battement d'aile d'un papillon, donc c'est une perturbation qui est extrêmement faible, peut donner un cyclone à l'autre bout de la Terre dans une semaine. Uniquement parce que justement il va y avoir un effet d'amplification exponentielle de cette toute petite perturbation initiale, et ça peut donner des conséquences absolument énormes et imprévisibles. Alors ça s'appelle la sensibilité aux conditions initiales, hein, c'est une des caractéristiques de base du chaos, et d'ailleurs la théorie du chaos n'a pas pour but de rendre un système chaotique bien élevé, hein, mais plutôt de le caractériser le mieux possible, et en particulier d'estimer à quelle vitesse il part en couille. On sait que c'est exponentiel, c'est sûr. Mais on peut quand même en savoir un petit peu plus en quantifiant là où les puissances dont on parle. C'est très grossièrement ce qu'on appelle les exposants de Lyapunov. On choisit une échelle de temps caractéristique du système, alors ça peut être la seconde, le jour ou l'année, hein, selon le cas, et on peut calculer ou évaluer les exposants de Lyapunov qui nous donnent une durée maximale de confiance pour nos prédictions avant que ça parte vraiment trop en sucette. Donc, c'est un petit peu comme ça, d'ailleurs, qu'on a des indices de confiance dans les prédictions météo. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Il pleuvra à 4 sur 5.
Voilà, bah, ça veut dire, si on a un gros indice de confiance, ça veut dire que le système a des exposants de Lyapunov plutôt petits, et si on a un indice de confiance trop faible, plus faible, c'est-à-dire 2 ou 3, ça veut dire qu'il y a des exposants de Lyapunov plus gros, et que donc ça diverge plus vite, hein, tout simplement. Bref. Jusqu'à présent, c'était un état de fait, quoi. On peut pas prédire le futur lointain d'un système chaotique parce que il est chaotique, tiens. on peut que prédire l'ampleur de notre impuissance, en quelque sorte. Tu vois.
Et c'est tellement triste.
Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça a été comme ça pendant plus de 50 ans, tu vois. Et là, voilà, t'y pas que les machines, elles foutent tout ça par terre. Donc j'ai été estomaqué, hein, quand j'ai lu cet article. Il y a quand même 4 chercheurs de l'université du Maryland qui ont appliqué des techniques de machine learning à un système physique connu sous le nom poétique d'équation de Kuramoto-Shivashinsky. Ça modélise la propagation d'un front de flamme, et c'est une équation qui est connue depuis les années 70, et c'est aussi un modèle de dynamique chaotique et turbulent assez classique. Donc dans un système classique comme ça, les exponents de Lyapunov sont connus, et on estime que le temps de Lyapunov qui est grossièrement l'horizon de prédictibilité, hein, comme je le disais plus haut, c'est le temps avant que ça diverge trop franchement. Donc voilà, donc normalement, quand on fait des prédictions, bon, on s'arrête au temps de Lyapunov, parce qu'après c'est plus pertinent. On sait que ça va partir trop vite. Donc, après avoir entraîné leur modèle avec plein de solutions calculées numériquement de l'équation, ils ont été capables d'atteindre des prédictions qui sont fiables après 8 ans de Lyapunov. Autant dire que c'est comme le système était plus chaotique à ce niveau-là. Hein. C'est tout bonnement révolutionnaire. Ce sont des travaux qui sont d'une importance capitale et qui auront probablement des répercussions très très larges et très importantes, parce que le modèle, en plus, le modèle qui a été utilisé, il connaît pas Kuramoto, il connaît pas Shivashinsky, il connaît pas l'équation, il s'en fout. Il traite seulement des données. Or, les systèmes chaotiques dont on connaît pas les équations, ou dont on les connaît mais qu'on peut pas forcément modéliser très bien, il y en a partout autour de nous. En fait, presque tous les phénomènes non linéaires ont beaucoup plus de chances d'être chaotiques que réguliers. Tu prends un pendule, bon, c'est régulier un pendule, hein. Mais si tu rajoutes un poids et que tu fais un double pendule, ça devient chaotique immédiatement. Et donc, si on peut s'affranchir de la nature chaotique même d'un système, ça peut tout changer. Pour les prédictions de la météo, par exemple, mais aussi pour les phénomènes de turbulence en aéronautique, en physique des plasmas, en hydraulique, en géologie, en médecine et même en économie. Et la méthode, elle est loin d'être simple, hein, parce qu'elle doit être capable de traiter de très nombreuses variables interconnectées. Et d'ailleurs, c'est ce qui les avait arrêtés il y a une quinzaine d'années lorsqu'ils avaient publié leurs premiers travaux. Mais la nouvelle méthode utilise la localité du système physique pour transcrire, qu'ils arrivent à retranscrire, si tu veux, en localité des interactions entre neurones. Du coup, les calculs deviennent possibles, ils deviennent faisables, et la méthode est applicable à une variété énorme de phénomènes. Donc ça veut dire globalement que le chaos est battu, le robot bat le papillon avec un énorme high kick dans sa face.
Yo, when! Vous cliquerez sur le lien, vous irez voir l'article original de Wired sur le sujet. Vous défilez, si vous avez la flemme de tout lire, parce qu'en plus, Guillaume vous a tout bien expliqué. Et puis, vous avez les petits schémas. Moi, j'ai mis dans mon regard un peu stupide au départ, un moment à comprendre. Un temps Lyapunov à comprendre ce qui se passait. Donc en A, vous avez le modèle chaotique, c'est-à-dire en gros la façon dont se propage cette espèce de flamme que décrivait Guillaume. En B, il y a ce qu'anticipe la machine, l'algorithme après un entraînement sur le modèle de données, et en troisième image, la superposition qui montre en gros la zone verte à gauche, qui est une superposition parfaite, presque parfaite, de ce qu'anticipe l'algorithme versus la réalité, et puis après la phase où ça se barre en couille. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette succession de schémas et dans la description qu'il y avait, outre la prouesse qui effectivement sur le plan de l'innovation laisse entreapercevoir des choses assez incroyables, à moins que ce soit un giga extensiblement énorme coup de bol, mais là c'est difficilement discutable, c'est qu'est-ce qui fait qu'après 8 unités de temps Lyapunov, ça se barre en couille et pas avant ou pas après?
Bah ça, c'est toujours les... en fait, il y a plein de possibilités. Si tu veux, il y a la précision des mesures initiales et tu sais, ça, ouais. La divergence, c'est vraiment exponentiel. Donc à un moment donné, la différence entre ce qui est entre ce qui est calculé et la réalité, ça va devenir tellement grand que ça va dépasser les capacités du système, parce que le système qui fait la prévision, c'est un réseau de neurones un peu particulier, et ce réseau de neurones un peu particulier, en fait, il a un nombre limité de connexions, de toute façon. Et donc, à un moment donné, la différence informationnelle, à mon avis, va être trop importante pour que le neurone puisse, pour que le réseau, pour que l'ensemble du modèle, si tu veux, soit capable d'encaisser la différence.
Donc, c'est un problème de performance. Ça veut dire que demain, avec des machines plus performantes, on va pouvoir rallonger cette durée après laquelle on est plus capable de prédire le modèle.
Je pense que oui. Je pense qu'effectivement, si tu prends un modèle plus compliqué, plus sophistiqué et avec beaucoup plus de puissance de calcul, il n'est pas exclu que tu puisses étendre l'intervalle de confiance encore plus. Mais après, il va y avoir un arbitrage, parce que très certainement les calculs vont devenir beaucoup 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 plus lourds, et après il va y avoir un coût, si tu veux, pour chaque gain
de temps. D'accord, ça va être exponentiel là, encore une fois, l'investissement en énergie.
Comme effectivement comme la divergence est exponentielle, il y a peut-être effectivement que ça va à un moment donné devenir plus rentable d'avoir un modèle plus gros pour essayer d'avoir des temps plus longs. Cela dit, je ne sais pas quelle est cette relation. Donc il n'est pas exclu que ce soit qu'on puisse encore améliorer le modèle significativement.
Ouais, c'est vraiment captivant. Moi, effectivement, quand j'ai vu cet article que tu nous avais mis dans les notes de l'émission, qui évidemment n'était pas remonté dans mes centres de veille de mon côté, j'ai trouvé ça vraiment captivant et ça laisse entreapercevoir un avenir formidable sur plein de thèmes que tu as cités. Après cette rubrique Ghost Ex Machina, on enchaîne. Évidemment, le titre va répondre avec la précédente rubrique. On enchaîne avec une rubrique Deus in the Shell. Je vous laisserai remettre les titres dans l'ordre si vous le souhaitez, avec un premier élément autour de l'Inde qui se lance dans la course aux armes autonomes. Ça fait froid dans le dos, Guillaume.
Ben, s'il y a bien un sujet d'inquiétude et une préoccupation pour le futur proche qui est concernant l'intelligence artificielle, hein, c'est certainement les armes autonomes. Alors que ce soit des drones, des tanks ou des robots bipèdes comme dans Metal Gear, on est quand même en droit d'avoir peur des robots tueurs. Et les partisans de Stop Killer Robots, qui est l'organisation dont Elon Musk est une des figures les plus connues, les considèrent comme des armes de destruction massive et quand même comme la troisième révolution de la guerre après la poudre et la bombe atomique. Rien que ça, quoi. Alors, bien sûr, il y a pas mal d'efforts diplomatiques à l'ONU hein, pour les interdire de manière préventive, sauf que ben, c'est compliqué, parce que ben, c'est un jeu où tu gagnes un énorme avantage si tu joues pas. Et c'est vrai que c'est quand même très délicat de demander à un pays de se priver d'un atout sans pouvoir lui donner l'assurance qu'aucun autre ne l'aura jamais, tu vois. Alors, du coup, tous les pays industrialisés, en plus, injectent des milliards de dollars dans la recherche sur des applications militaires de l'IA. En 2020, ils estiment qu'il y aurait 188 milliards de dollars qui seront investis annuellement dans le monde dans des recherches en robotique. Nous-mêmes, et ainsi que la Chine, Israël, l'Angleterre, etc., on a déjà déployé pas moins de 381 appareils militaires semi-autonomes. La Chine, elle, par exemple, d'un côté, à l'ONU, elle se montre de bonne volonté pour stopper les killer robots, et de l'autre, elle annonce son intention de créer un essaim de drones autonomes. Bon, c'est une position un petit peu ambiguë, qu'on partage, d'ailleurs, hein, avec l'Allemagne, Israël et les États-Unis. On est contre, hein, attention, pensez-vous, c'est dangereux tout ça quand même.
Mais on va pas se laisser dépasser quand même.
Mais voilà, on est aussi contre toute règle contraignante, tu vois, donc c'est mal barré, hein, on va pas se mentir. Tous les États se passeraient bien des nouvelles armes, mais ils vont les développer par sécurité, au cas où.
Par dissuasion.
Et c'est exactement la position de l'Inde, hein, qui vient d'annoncer effectivement un plan très ambitieux pour moderniser son armée à coups de tanks, de bateaux, de drones et de tous les robots qu'il faudra pour maintenir à distance les menaces potentielles qui viendront de Chine, du Pakistan, quoi, principalement. Et parce que tout simplement, l'Inde ne veut pas être larguée dans la course militaire. Elle prévoit que l'IA, c'est le futur de la guerre. Et cette guerre deviendra inévitablement toujours plus technologique, robotisée ou automatisée. Bon, ben, je crois que voilà, quoi, la messe est dite.
Ouais. Bah attends, on verra quand même si ça évolue de manière là encore exponentielle. On peut s'imaginer qu'il y a un sursaut intelligent de l'humanité. Soyons positifs. On peut pas.
Je crois pas du tout.
Ah, mais on peut pas savoir. Il faut croiser les doigts. Il faut travailler. Il faut œuvrer pour tout ça. C'est important. Et une manière d'œuvrer, c'est d'apporter cette information comme on le fait aujourd'hui dans le podcast, Guillaume. On enchaîne avec les nouvelles réjouissantes ou pas. De ce qui se passe encore une fois en Chine, c'est un berceau fertile pour pas mal d'innovations technologiques à la dimension d'une population. Ça fait partie de ces sujets qui sont relayés régulièrement et qu'on discute régulièrement dans Tech Café. On a quelques petites news complémentaires sur ce qui se passe en Chine, Guillaume.
Oui, parce que l'IA, c'est le futur, hein, donc c'est même le présent. Dans la série « La Chine adore la reconnaissance faciale », on a cette news du Télégraphe qui raconte comment une école chinoise a installé un système de reconnaissance faciale dans une classe pour détecter les enfants qui suivent pas. Alors pour l'instant, l'ordinateur capte
que
7 émotions différentes. Ouais, c'est largement suffisant pour détecter ceux qui rêvassent, qui bavardent ou qui piquent un roupillon sur le bureau.
C'est clair.
Le but du Smart Eye, bien entendu, hein, comme tu le dis, c'est évidemment d'aider les élèves en difficulté et, selon le principal, monsieur Ni Zuyan, d'améliorer la qualité de l'enseignement. Mmh. Et en tout cas, ça marche bien, hein, ça fait flipper tous les élèves. Ils se sentent constamment sous l'œil de Sauron, ce qui est vrai, en fait, et ils se comportent ainsi spontanément comme des bons petits camarades productifs. Pour le moment, c'est qu'une expérimentation, et bon, même en Chine, les réactions ont venu sceptiques à l'horrifier, mais bon, ça va sans doute pas empêcher monsieur Ni d'étendre la surveillance à toutes les classes de la rentrée prochaine.
Bah écoute, vivement septembre. Tu mettais au passage dans les notes, le grand frère te regarde, camarade. Je voulais juste reprolonger un petit peu l'allusion à 1984. J'en avais parlé et je m'étais plongé dans la traduction française de 1984. Et pour votre petite info, il y a une nouvelle traduction qui ressort. J'avais trouvé ça effectivement assez abrupt à lire. À voir si on perd pas trop le sens original. A priori pas, mais il y a quand même des éléments qui évoluent. Notamment, on parle plus de novlangue. Je sais plus quel est l'autre terme pour.
La traduction est beaucoup plus respectueuse des slogans, par exemple. Et je pense qu'elle est plus proche du truc original. Elle est au présent aussi, et pas à l'imparfait, ce qui la rendra sans doute un petit peu plus digeste. Par contre, ce qui est bizarre, ils ont troqué novlangue pour néo-parler. Ce qui est assez bizarre, parce que novlangue, c'est devenu quelque chose, tu vois, c'est de la pop culture maintenant, c'est devenu une référence commune. Donc c'est un petit peu étrange. Mais à part ça, ça a l'air d'être plutôt une bonne traduction, on va dire.
Donc, si vous aviez pas eu l'occasion de vous faire violence, peut-être ça vaut le coup d'aller lire 1984 avec la nouvelle traduction. On continue avec le point de vue chinois sur une intelligence artificielle de service public. La fin du capitalisme et l'utopie communiste?
Absolument, une utopie techno-socialiste, j'adore ça. C'est bon, alors, c'est vrai, vous l'avez sans doute un petit peu ressenti, hein. On est un petit peu sceptique, disons, ici, en ce qui concerne l'utilisation massive des technologies.
On est un peu partie prenante.
Pour le monitoring, tu vois, de la population chinoise, comme on l'a déjà parlé, l'omniprésence de la vidéosurveillance, le score social, tout ça, tout ça. Bon, mais... Et si tout ça c'était une question de point de vue, d'après tout? Si c'était juste le début d'un modèle de société? Et si c'était pas un aussi mauvais modèle que ça en avait l'air?
J'aime quand tu te fais ton propre avocat du diable.
Mais oui, si la Chine est devenue très libérale au niveau économique, hein, le vieil antagonisme idéologique avec l'Occident existe encore. Avec des nouvelles technologies, il pourrait encore se creuser bien plus. Et c'est ce qu'explique Feng Xiang, qui est professeur de droit à l'université de Tsinghua. Il a expliqué ça à un séminaire sur l'IA, donc, qui était en mars dernier à Pékin. Et pour lui, la généralisation de l'IA, des algorithmes sophistiqués en général et de la digitalisation croissante de nos vies, c'est un challenge politique et social de premier ordre. Et donc, l'IA ne doit pas rester sous le contrôle des forces privées, elle doit être soumise aux lois du marché. Et si c'est le cas, il y aura inévitablement constitution, parce que si c'est le cas, si elle est soumise aux lois du marché, il y aura inévitablement une constitution d'une oligarchie qui va contrôler les données, les algorithmes et les robots qui en retireront l'immense majorité des bénéfices, quoi. Donc les inégalités vont se creuser, la pauvreté et le chômage deviendront des fléaux qui vont déstabiliser tous les régimes. La Chine, qui a une économie de marché socialiste, ne craint pas ce genre de danger. Une intelligence artificielle d'État pourra gérer au mieux les immenses quantités de données générées par la population et le pays entier, en fait, hein, et orienter les choix stratégiques, répartir la richesse qu'elle va créer avec ces machines et œuvrer pour le bien de tous. En plus, au plus l'IA va se révéler polyvalente, au plus elle devient capable de gérer des nombreux aspects de la vie humaine, au moins il sera pertinent de laisser ces technologies au secteur privé. Il sera donc naturel de nationaliser l'IA. En plus, Feng Shuang ne manque pas d'exemples pour illustrer son propos sur les oligopoles, tu sais, les oligarchies technologiques qui existent en ce moment et qui se renforcent, hein, entre les groupes qui gardent des dizaines de milliards de contributions fiscales sur les comptes offshore, les inégalités sociales qui se creusent aux US, ou même le système de charité qui fonctionne plus correctement, hein, j'y reviendrai si on a le temps dans ce podcast. Ben, d'ailleurs, il parle même de Facebook, qui place son business model au-dessus des responsabilités citoyennes. Donc pour lui, hein, lorsque l'IA aura atteint un certain seuil de capacité, il faudra nécessairement la nationaliser pour éviter une véritable dystopie. Donc, mais par contre, si on le fait à temps, on aura un communisme d'un genre nouveau. Et un communisme où l'égalité et la justice sociale seront des réalités algorithmiques. Et donc il ne faut pas craindre, mais il faut se réjouir de l'avènement des machines.
Bon, ben, finalement, tout va bien, on va être parfaitement rassurés. Je vais quand même... donner quelques éléments sur le système de notation des citoyens chinois dont on a déjà parlé à plusieurs reprises dans Tech Café, puisque on avait dit que ça devrait impacter le fait de prendre l'avion, etc. Bon, ça y est, on commence à avoir des chiffres, des évaluations. Alors attention, hein, c'est des chiffres qui émanent d'un organe de presse gouvernemental chinois, donc je vous invite à récupérer vos pincettes et à mettre ces chiffres en perspective de ce que ça peut être vraiment. 11,14 millions de trajets en avion et 4,25 millions de trains auraient été empêchés d'être pris par ce score. Un chiffre qui est complètement dingue, c'est-à-dire qu'on pourrait s'imaginer que ce soit vraiment dissuasif et que ça empêche les gens d'avoir des mauvais comportements et que ça affecte à la marge les gens qui sont vraiment dissidents. Et en fait, bah, quand je vois ces chiffres-là, ça me paraît énorme. Alors encore une fois, à prendre évidemment avec des pincettes en revoyant la source de ces chiffres-là. On vous rappelle hein, quelques exemples de mauvais comportements qui peuvent vous empêcher de prendre l'avion ou le train. Donc ça peut être de causer du désordre dans les transports, à définir la notion de désordre, fumer dans un avion ou un train, avoir un ticket dont la validité est expirée, ne pas avoir payé une amende, répandre de fausses informations sur le terroriste. Ce qu'on peut quand même lister comme étant plein de choses, certes plus ou moins graves, mais qui ont des conséquences directes en Chine. Et puis donc il y a plusieurs actions qui peuvent entraîner aussi une chute de notation des citoyens de manière générale, donc pas directement sur le fait de prendre le train ou l'avion, hein, mais il peut y avoir des conséquences autres, telles que, par exemple, si demain tu as un mauvais comportement, peut-être que on va ralentir ta connexion internet, Guillaume. On va pouvoir te.
Quelle horreur.
Il peut y avoir des conséquences qui pourraient entraîner la chute de notation des citoyens, comme passer trop de temps à jouer aux jeux vidéo.
Ça, quelle horreur.
Peut-être trop vite ciblé. Poster sur les réseaux sociaux. Bon, ça finalement c'est un moindre mal, non? Ou refuser le service militaire. Ça, je n'osais même pas imaginer le fait que quelqu'un pourrait en Chine refuser le service militaire. Pour moi, c'était plus que te faire baisser la note. Bon voilà, je sais pas s'il y a bien matière à continuer à rebondir. Par contre, ce sur quoi on va peut-être un petit peu plus rebondir, Guillaume, c'est cette actu qui a capté ton attention et quand on s'y plonge, il y a matière à discuter. Alors on s'éloigne de la Chine et on va aux États-Unis. Plus précisément, on sort des cartons de chez Google grâce à The Verge, qui a récupéré une vidéo interne de Google. Pour le moins dérangeante, le titre c'est Selfish Ledger, ou je sais plus si c'est exactement le titre de la vidéo ou ou simplement le nom de ce registre. Est-ce que tu peux nous décrire un peu cette vidéo pour ceux qui l'auraient pas vu, Guillaume? Pas tant sur, enfin si aussi, ça, je pense que ça compte beaucoup sur le plan de l'image, mais surtout sur ce qu'elle véhicule cette vidéo.
Ouais, bah effectivement, ça fait un petit peu le buzz la semaine dernière sur plein de sites. C'est une vidéo de Google X dans laquelle il est décrit le concept du selfish ledger, comme tu dis, où donc ça se traduit par registre égoïste.
Google X, c'est cette instance de Google qui vise à faire de la recherche sur des domaines peut-être un peu moins grand public pour demain, mais plus à long terme et sortir des grands projets très ambitieux pour l'humanité.
Ouais, c'est ça. C'est une vidéo qui date de 2016, donc qui est pas toute jeune, mais qui vit à peine de faire surface. Hein. Alors le nom, le registre égoïste, c'est clairement une référence au titre du livre de Richard Dawkins, le gène égoïste. Ce livre qui est très connu, qui prend comme position de considérer le gène comme étant l'élément central de la théorie de l'évolution. Donc le gène n'est pas à proprement parler un être vivant, mais il aurait un objectif, et son seul objectif finalement, ce serait sa propre pérennité et sa propre prospérité. Les espèces vivantes qui le véhiculent ne font justement que le véhiculer, quoi. Lui, il passe d'individu en individu, et il pense qu'à lui, qu'à sa propre prospérité, c'est d'où le gène égoïste. Alors, quel rapport, du coup? La vidéo est assez longue, hein, et elle présente un concept de registre qui, enregistrerait hein, toutes nos actions en ligne et toutes nos informations. Tout ce qui est numérisable. En se reposant sur ces infos, des applications pourraient aider les utilisateurs à atteindre des objectifs, on montre des objectifs de type personnel ou alors des objectifs environnementaux, donc, par exemple perdre du poids ou consommer local. Bon, pour l'instant, il y a rien de super waouh dans ce rapport, hein, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, finalement. Mais la vidéo considère que le registre peut aussi agir, en quelque sorte, selon ses besoins. Par exemple, s'il manque une information, il va vous la demander directement, ou il va peut-être vous suggérer d'acquérir le matériel pour obtenir cette information. Le cas échéant, alors il y a un exemple, c'est celui tout simplement du poids de l'utilisateur, hein, s'il n'a pas de balance, le registre va directement lui suggérer des vendeurs de balance en ligne. Et en fait, il y a mieux que ça, il pourrait à terme concevoir lui-même les capteurs ou les appareils dont il pourrait avoir besoin pour sa base de données. Ça va se donner sur vous et sur tout le monde, en réalité. Et ce registre, finalement, aurait un objectif propre, qui serait de récolter le maximum d'informations sur les comportements humains, de les analyser, de dégager des structures. Donc, comme le gène, le registre n'est pas seulement une masse d'informations, mais il a un rôle moteur. Et du coup, l'analogie est achevée avec la notion d'héritabilité du registre. Le registre qui vous concerne pourrait être passé à votre descendance, et les analyses de ce registre ne reposeront plus seulement sur l'individu, mais sur carrément sur des aussi sur toutes les générations passées. Donc le registre devient multigénérationnel, et du coup il pourrait comprendre mieux l'espèce humaine, comme ça, en ayant une vue d'ensemble dans l'espace et dans le temps. Alors bien sûr, tout ce savoir permettrait de résoudre des problèmes d'ampleur globale, hein. Alors voilà, donc c'est un petit peu ça l'idée. Alors, c'est juste une vidéo, c'est le Google X, donc on nage en pleine science-fiction, de l'aveu même des concepteurs de la vidéo. On est carrément plus dans l'essai que dans l'objectif ou le projet, donc pas d'affolance, hein. Néanmoins, certains détails du registre nous forcent quand même à nous rappeler que déjà aujourd'hui, la collecte des données par Google et les autres est massive, quoi, et que des applications qui ont des prétentions similaires à toute petite échelle, hein, existent déjà ou correspondent à des brevets de Google ou d'autres d'ailleurs. Par exemple, une appli qui détecte si vous vous trompez de chemin et qui vous remet dans le droit chemin, ou des applis de shopping automatisées. Mais finalement, ce qui est amusant, c'est que je trouve que ce futur rappelle un petit peu celui qui est décrit par Feng Chang, là, notre prof de droit chinois, parce que c'est finalement une IA qui sait tout de vous et de tout le monde, et qui analyse le monde entier, tout simplement, et qui nous guide selon un objectif de bien collectif. Et tu sais que ça me rappelle, tout bêtement, ben, ça me rappelle les robots d'Asimov. Les robots, c'est un recueil de nouvelles qui date des années 40-50. Parmi les derniers textes, il y a une description du futur où les machines, mais les machines avec un grand M, tu vois, sont des machines pensantes comme des super robots qui dirigent absolument tout et dans notre propre intérêt. D'ailleurs, bien sûr, il y a une opposition dans les dernières nouvelles, il y a une opposition, mais cette opposition, en fait, elle est subtilement, avec bienveillance, effacée petit à petit, elle est oubliée, placardisée. C'est une nouvelle qui s'appelle Conflit évitable. Donc les machines ont même ensemble convenu d'une quatrième loi de la robotique, hein, qui serait que le bien de l'humanité est prioritaire sur celui d'un individu. Et donc c'est une nouvelle qui est parue en 1950 et qui se passe d'ailleurs au 21e siècle. C'est assez rigolo. Alors, donc, ça veut dire quoi tout ça? Le futur d'Asimov arrive bientôt, ou alors est-ce qu'on continue simplement à rêver comme on le fait depuis 70 ans?
Ouais, il faut regarder les éléments. C'est hyper intéressant cette news. Moi, ça m'a fait en fait réfléchir et ça te fait perdre un petit peu en conjecture, je trouve, quand on consulte ce type de news et quand on essaie d'y réfléchir. Je voudrais lire juste la réponse qu'a donné un porte-parole du département X de Google, qui a été amené à commenter. On l'a invité à commenter la vidéo. Il a dit: nous comprenons que cela puisse déranger. C'est conçu pour ça. Il s'agit d'un exercice intellectuel mené par l'équipe du design qui date d'il y a des années et qui utilise une technique appelée concept spéculatif pour explorer des idées et des concepts inconfortables afin de provoquer la discussion et le débat. Ce n'est lié à aucun produit actuel ou futur. Alors soyons clairs, si je ferme les guillemets, soyons clairs, si cette vidéo avait comme objectif de provoquer la discussion et le débat, je pense que c'est fait et ça le fait au moins dans notre esprit. Là où tu as, je pense, bien résumé les imbrications que ça peut avoir, c'est qu'on pourrait se contenter de se dire, bon, la façon dont c'est tourné, la façon dont c'est lu, la façon dont c'est monté, donne un sentiment un peu de malaise, vraiment le même malaise qu'on ressent en regardant plein d'épisodes de Black Mirror. Mais in fine, effectivement, quand on met en perspective des brevets, voire même tout simplement des usages de Google, mais pas que d'ailleurs, hein, des usages de nouvelles technologies qu'on peut avoir en société, ben on se rend compte qu'on emprunte très clairement ce chemin qui est tracé dans cette vidéo et par la démarche qui est donnée. Donc, ce qui est terrible, c'est que ça ne m'étonnerait pas que le fondement de cette vidéo, ce soit... évidemment, non pas un plan machiavélique de la part de Google X pour créer une entité qui nous dépasserait tout. Je pense que l'explication la plus plausible, c'est effectivement que ce soit un élément de support de discussion et d'échange pour, j'en sais rien, des séminaires, des guidelines sur ce qu'ils veulent faire, pas faire. D'ailleurs, on pense à Google qui avait comme claim « don't be evil » et qui a retiré ce terme de la plupart de ses occurrences dans son code de conduite. Il a pas plus qu'une fois, alors qu'avant il était cité à plusieurs reprises. J'imagine bien que ça puisse être un support, tu sais, de séminaire des équipes en interne pour dire ce qu'il faut faire, pas faire, les motiver ou au contraire les alerter sur un certain nombre de choses. Il n'empêche que les faits semblent montrer que, bah ouais, on suit quand même la direction. Alors, jusqu'où est-ce que ça va aller, j'en sais rien, mais du coup, ça donne un peu de crédit quand même quand on voit ce genre de vidéo et quand on réfléchit à ce genre de choses aux réactions que peut avoir un mec comme Elon Musk à ce sujet-là, sur les dangers que ça peut représenter et surtout sur les conséquences que ça pourrait avoir sur notre société. Alors écoute, je sais pas si on va doucement vers iRobot, en tout cas, on va doucement tous ensemble continuer à y réfléchir, ça c'est une certitude.
Oui, et puis il faut pas non plus perdre de vue que il y a quand même un sentiment global de confiance en soi un petit peu excessive dans la Silicon Valley, autrement ouais. appelé le melon, hein, les Google et Apple et Facebook, ils ont énormément de pognon, énormément d'ingénieurs, énormément d'intelligence, et ils pensent qu'ils peuvent tout faire et que voilà, c'est à portée de main. Techniquement, ça se passe pas toujours comme ça. Donc, techniquement, ce fameux truc, ce registre-là, il est pas non plus pour demain, il est pas si facile à mettre en œuvre pour plein de raisons, donc faut pas non plus s'affoler, quoi.
Si on s'affole, c'est en tout cas, on s'affole d'une tendance et non pas de l'existence ou de l'arrivée imminente d'un système de ce type-là, c'est clair. Tu nous parles un petit peu de ce trou noir qui agite un peu la Silicon Valley autour du charity business?
Ben ouais, la charité, c'est important aux États-Unis. Hein,
absolument. Le philanthropisme.
Absolument, parce qu'on s'attend à ce que l'État intervienne assez peu. Du coup, les dons sont des sources de revenus très importantes là-bas. Et il est normal, quand on a beaucoup de fric, hein, d'en donner une partie à des offres diverses. Bill Gates, dont presque toute la fortune personnelle est distribuée via sa fondation, est un des exemples les plus marquants, on va dire, de ce truc-là. Tim Cook, lui aussi, prévoit de donner pas moins de $800 millions avant sa mort. Et aussi bien Mark Zuckerberg que Larry Page, d'ailleurs, ont signé le Giving Pledge, qui est un papier où ils acceptent de donner la majeure partie de leur fortune. Donc tout cela est bel et bon. Vous me direz au passage, si les entreprises détenues par les personnes en question payaient déjà équitablement leurs impôts, ce serait déjà un beau geste pour la communauté. Moi, je dis ça, je dis rien, mais bon, c'est pas le sujet. Donc l'Amérique, c'est aussi une notion de philanthrope, tu vois. Sauf que du côté du terrain, on s'en déroule un petit peu, parce que dans la Silicon Valley même, les associations caritatives voient arriver de moins en moins de sous dans leur caisse, alors que on peut pas vraiment dire que la région subisse une violente récession en ce moment, tu vois. Donc on peut se demander où vont les milliards, littéralement des milliards hein, de dollars, de dons, de tous ces magnats de la tech. Ben, ils vont à des intermédiaires, des fonds caritatifs qui sont gérés de manière privée. Ils appellent ça les Donor Advised Funds. Alors désolé pour l'anglais, mais je sais pas comment traduire en fait. Hein. Donneur conseiller, tu vois, ça veut rien dire. Je pense pas qu'on ait un équivalent de toute façon de ce côté de l'Atlantique. Donc je sais pas trop. Donc je vais continuer à utiliser Donor Advised Fund. Donc toujours est-il que ces fonds.
Fonds de donation conseillé, je dirais.
Ouais, fonds de donation conseillé.
Bon, je sais pas.
Bon, on peut dire ça comme ça. Toujours est-il que ces fonds, comme des fonds de pension, hein, engrangent les dons et les redistribuent, mais au compte-gouttes. Faut dire qu'avant, la plupart des dons allaient dans des fondations privées qui avaient des obligations de distribuer au moins 5% par an de leur capital. Donc, parce qu'ils étaient sous un régime spécial, un régime légal spécial. Les Donor Advised Funds, eux, ils n'ont pas cette obligation. Donc, ils ont un
tranquille.
Autre régime. Et donc, du coup, pourquoi on les utilise ? Eh ben, on les utilise pour défiscaliser. Parce que si les Donor Advised ont une croissance qui est aussi rapide ces dernières années, et que le plus gros détient un capital de 13 milliards de dollars quand même, c'est parce que chaque don ouvre la voie à un cadeau fiscal bien plus appréciable que la voie traditionnelle. Par exemple, en 2012, Mark Zuckerberg a donné 500 millions en actions. Et c'était en 2012 lors de l'entrée en bourse de Facebook. Il a aussi donné 1 milliard en actions toujours en 2013. C'est sans doute une coïncidence. Donc il y a un problème. Les Donor Advised Funds sont gérés comme des fonds de pension, avec la croissance du capital comme objectif prioritaire sur leur redistribution, ce qui est quand même un comble. Il y a un journaliste qui a fait l'expérience de placer $5000 sur l'un de ces fonds. Non seulement après un an il n'avait pas été donné, mais en plus sa mise avait fondu pour des frais de tenue de compte. C'est quand même magnifique. Donc, alors, tous les Donor Advised Funds ne sont sans doute pas mauvais, hein. Enfin, il semble, d'après les associations de terrain, qu'il y ait quand même une couille dans le potage. Et en tout cas, un truc qui bloque le fameux ruissellement qui est si cher aux néolibéraux.
Ouais, c'est bizarre. C'est vrai que j'ai du mal à transposer un petit peu ça en France. Alors après, c'est peut-être une vraie méconnaissance de la façon dont ça peut fonctionner à certaines échelles. Mais j'ai le sentiment que ça, c'est très très américain, ça. Si vous avez des connaissances sur la manière dont ça pourrait s'organiser sur des fonds comme ça de générosité conseillée, je sais pas comment les appeler en France, ce serait évidemment très intéressant. On pointait du doigt et on mentionnait Facebook. Alors on a plusieurs news autour de Facebook. Ça continue à être un sujet d'actualité ces derniers temps. D'abord Facebook qui voudrait éviter de reproduire le bordel ou laisser imaginer imaginer qu'ils sont responsables d'avoir reproduit un bordel d'une autre élection. Je crois que c'était avec toi qu'on parlait du référendum sur le droit à l'avortement en Irlande. On est encore sur
Google.
Excuse-moi, sur Google. Et là, il y a d'autres choses du côté de chez Facebook.
Ouais, bah il est Facebook. Il aimerait bien il aimerait bien arrêter d'être utilisé pour massacrer une élection, une autre si possible. Ce serait pas mal.
Ça ternit un peu son image.
Voilà, ça la fout mal. Donc, conscient de l'ampleur du problème, hein, il va demander l'aide d'un think tank externe qui s'appelle Atlantic Council, et dont le but va être d'analyser en temps réel l'émergence des menaces et des campagnes de désinformation. Donc c'est un vaste programme, et d'ailleurs qui nous amène à nous demander c'est quoi ce think tank, c'est quoi ce d'où ils sont. En fait, c'est une organisation de réflexion sur les relations internationales qui a été fondée en 61, et elle est dirigée par un gars qui s'appelle John Huntsman Jr. C'est un politicien républicain qui a œuvré sous Reagan et Bush et qui est mormon, diplômé de l'université de l'Utah. Alors donc effectivement, ça fait un petit peu tiquer, mais bon, pas de panique, parce qu'il a aussi été ambassadeur en Chine sous Obama, et pendant ses campagnes électorales, puisqu'il a été candidat aux primaires, il s'est déclaré en faveur du mariage homosexuel, convaincu du réchauffement climatique et aussi de la théorie de l'évolution. Donc en gros, c'est quand même un centre.
On n'est pas si mal que ça.
Centre droit. Donc c'est pas vraiment non plus dans la ligne politique de Trump. Donc on est quand même un petit peu soulagé.
Toujours dans la lignée de Facebook, il y a l'audition actuellement, au moment où on enregistre, ou plutôt elle est terminée, hein, mais de Mark Zuckerberg au Parlement européen. Alors, on va être transparent avec vous, on ne l'a pas suivi juste avant l'enregistrement. Moi, j'étais plutôt occupé, pour tout vous dire, avec les petites contraintes familiales du quotidien. Néanmoins, il y avait l'esprit de Pierre-Olivier Dibman qui veillait sur nous. Bon, il a fait une petite coquille, on ne lui en voudra pas, il a écrit Mark Zuckerberg, Mark à la française, mais c'est pas très grave. Sur Facebook, il a partagé donc l'article de Numérama qui expliquait comment suivre les auditions. Et je vais citer sa publication, hein, comme ça il ferait un petit peu partie de nous dans Stack Café. Les auditions de Mark Zuckerberg devant le Sénat US ont montré des politiciens curieux et pas tout à fait sûrs de comment Facebook fonctionne et est rentable, essentiellement cherchant à comprendre. Les auditions devant le Parlement européen montrent des politiciens renseignés, attaquent des dossiers peu ou pas assez publics, tels que les shadow profiles, la migration illégale des données en dehors des serveurs européens, etc. Les questions sont techniques et pointues, donc voilà, ça remplacera peut-être l'avis qu'on aurait pu vous donner à chaud sur ces auditions. On reviendra évidemment dessus s'il y a matière dès la semaine prochaine dans Tech Café. Un petit mot toujours sur Facebook, qui a sorti une plateforme qui s'appelle Facebook pour les jeunes, qui est très déroutant. Ça s'appelle Facebook à votre image, donc c'est un portail pour les jeunes. La promesse, c'est donner aux jeunes le pouvoir de bien contrôler leur expérience sur les réseaux sociaux. J'ai déjà abordé cette news, j'étais invité aujourd'hui dans le rendez-vous tech de Patrick Béja, donc si vous l'avez entendu, vous allez me réentendre en dire un petit peu la même chose. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que normalement, dans les métiers de la communication, quand on s'adresse aux jeunes, le principe, c'est de montrer tout sauf le fait qu'ils sont jeunes et de parler de leur âge et de leur nature de jeune aux jeunes. Et là, c'est un festival sur ce site de jeunisme. Bienvenue sur notre portail pour les jeunes. Considérez ce document comme un guide pour tout ce qui a trait à Facebook, gna 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 gna, et tout ce dont vous avez besoin pour une expérience optimale sur Facebook. Il s'agit d'un endroit où vous pourrez découvrir des personnes de votre âge qui donnent leur propre avis sur les sujets qui les importent en ligne. Et quand on navigue dans les différentes rubriques, on est assailli par des armées de petits pictos très souriants en forme de cadenas, en forme de publication Facebook, en forme de touche, en forme de bulle de conversation, qui font tout sauf jeunes. À la limite, ils sont enfantins, mais le paradoxe, c'est que les contenus textes sont particulièrement chargés et, à mon avis, parleront à tout sauf à des jeunes. Et d'ailleurs, la conclusion presque qu'on pouvait en avoir, c'est que je trouve que c'était une communication qui était peut-être plus appropriée à des seniors qui seraient amenés à découvrir Facebook plutôt qu'à des jeunes. Donc voilà, c'est peut-être finalement un très bon guide pour vos parents ou vos grands-parents si vous voulez leur faire comprendre Facebook. Une petite citation qui m'a plu dans les différentes rubriques, ils disent que Facebook leur permet de faire des choses, etc. Ils leur expliquent comment créer quelque chose de sympa. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça particulièrement sympa aussi. Tu avais vu cette plateforme, Guillaume, non? J'imagine que c'est pas
non,
forcément un sujet
non,
qui
non,
t'a
particulièrement. Non, pas vraiment. Non, c'est Facebook pour les jeunes. Je me sens trop pas concerné, quoi.
C'est vrai que c'est bon. On verra si ça continue à recruter des jeunes. Ça, c'était nos deux grandes rubriques qui ont tourné autour d'enjeux sociétaux, je pense, à l'échelle internationale, à l'appui des usages du grand public et des évolutions des technologies sous l'angle de l'intelligence artificielle. Avant de passer à la rubrique en bref, je vous rappelle que Tech Café est un podcast qui est proposé en financement participatif. L'idée, elle est très simple. Vous aimez le podcast? Tout va bien. Vous voulez l'écouter aussi longtemps qu'il vous plaira? Pas de souci, le podcast est évidemment gratuit. Si par contre, vous avez envie de donner votre petite pierre à l'édifice, de contribuer à votre manière, eh ben vous pouvez aller sur la plateforme Patreon, c'est patreon.com/techcafé. Vous avez le lien dans les notes de l'émission. Et puis, ben, c'est un petit peu le principe des petites rivières qui font les grands fleuves, ou c'est l'inverse. Non, c'est ça, les petites rivières qui font les grands fleuves. Et vous pouvez contribuer... Les petits ruisseaux, mais... Merci Guillaume. Les petits ruisseaux qui font les grands fleuves, et vous pouvez contribuer à partir de $1 par émission. C'est une mécanique d'abonnement, mais sans engagement. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. Et en tout cas, c'est un geste qui, tout cumulé, évidemment, nous soutient dans cette démarche de réalisation du podcast, à laquelle, évidemment, on trouve toujours beaucoup de plaisir, mais qui représente un temps toujours non négligeable dans notre quotidien, et puis qui permet de vraiment le considérer comme un travail à part entière, avec tout le plaisir que ça implique de vous relayer toutes ces news. Et donc on enchaîne avec la rubrique en bref, avec toute une série de petites news autour de la crypto. Guillaume, bah oui, on parle d'intelligence artificielle, de crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'on est trendy dans ce Tech Café?
Exactement, on a tout pour se faire cliquer quand même. Tu remarques, on a tous les gros sujets chauds.
Il manquerait plus qu'on parle de X un peu, mais c'est pas prévu, je crois.
On a prévu de préparer ça pour la prochaine fois, t'inquiète pas.
Ah, merci, ça équilibre. On a parlé de Google X, mais pas assez de porno. Alors, crypto.
Oui, la rubrique Allô Moment Crypto qui va peut-être devenir récurrente à ce niveau-là. Premièrement, on a réévalué la consommation du réseau Bitcoin. Et, surprise, elle est en hausse, encore une fois. Donc, on évalue qu'elle atteindra les 7,67 gigawatts, à la fin de 2018. Donc ça consomme déjà à peu près autant que l'Irlande, et c'est quand elle aura atteint les 8,2 gigawatts, qui arrivera l'année prochaine vraisemblablement, elle sera au niveau de l'Autriche. Donc ça s'arrange pas trop.
Ça s'empire de manière catastrophique, en sachant que la valeur, bon, ce qui est pas forcément lié, mais la valeur du Bitcoin n'est clairement pas dans un épanouissement le plus total. Après, je suis pas un expert en valeur de type crypto-monnaie ou même de valeur de manière générale, mais j'ai pas l'impression que ce soit aussi florissant qu'il y a quelques temps. À voir.
Alors la deuxième news est très rigolote, puisqu'il s'agit de la SEC, la Security and Exchange, donc la commission qui est en charge de tout ce qui est fraude financière aux États-Unis. Elle a lancé sa propre ICO, sa propre Initial Coin Offering sur Internet, et bien entendu, c'est un scam. Elle a fait un white paper, donc un livre blanc, un faux livre blanc. Elle a fait une fausse page, et si tu cliques pour acheter cette fameuse monnaie, tu te fais sermonner par la SEC qui te dit qu'il faut pas cliquer n'importe où et mettre son fric dans n'importe quelle connerie.
Ça me fait penser aux parents qui proposent des bonbons aux enfants juste avant le repas. Et puis quand ils disent « Ah oui, je veux bien un bonbon », ils disent « Non, t'as pas le droit, hein, tu vas être puni ».
Non, mais c'est exactement ça, c'est complètement éducatif et c'est plutôt rigolo, je dois bien l'avouer.
Le principal danger pour les
cryptos. Oui, on peut enchaîner sur cette news qui est... c'est une news pour moi, parce que finalement c'est assez vieux, mais il y a plusieurs news en une. Si tu veux, j'ai remarqué il y a pas très longtemps que Monero avait forqué. Alors en clair, ça veut dire que le Monero, qui est une crypto-monnaie, s'est scindé en deux. Il y a donc un Monero et un Monero original. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors tout simplement parce que le Monero, finalement, il a changé très légèrement d'algorithme, parce que ça c'est pour contrer l'apparition d'un ASIC, d'une puce spécialisée qui peut miner très très rapidement le Kryptonite, qui est l'algorithme de Monero. Du coup, il y a un Monero original qui conserve le Kryptonite, et le nouveau Monero, qui, lui, reste ASIC résistant, et qui est donc basé sur une variante de Kryptonite bien spécifique.
Et le Monero original, il est sérieusement remis en question, alors, du coup, de par son principe, original, sa valeur, en tout cas.
Ben, absolument, il a une valeur différente, un cours différent, et surtout, il a un réseau différent. Et sur ce réseau, il va y avoir beaucoup moins de particuliers, de gens comme vous et moi, et beaucoup plus de gens spécialisés. Alors, il faut savoir qu'en fait, c'est un truc qui est, depuis quelques années, qui devient vraiment inquiétant, c'est que les crypto-monnaies, à la base, c'est fait pour être décentralisé. C'est un peu l'essence du truc. Donc, tout le monde doit pouvoir miner des crypto-monnaies, de pouvoir contribuer à la puissance du réseau, doit pouvoir, de manière égalitaire, on va dire, maintenir toute cette infrastructure. Tu vois? Bon. C'est démocratique. C'est prévu pour être démocratique. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Pour le Bitcoin, par exemple, c'est pas du tout le cas. Il y a assez rapidement, il y a eu plusieurs entreprises qui se sont mis à fabriquer des puces spécifiques qu'on appelle les ASIC pour miner du Bitcoin, qui le font de manière beaucoup beaucoup plus rapide que les GPU de l'époque. Et en fait, ça a amené, si tu veux, à une forme de concentration parce que les gens qui minent du Bitcoin doivent acheter un matériel spécifique. Et donc, ben forcément, c'est pas monsieur et madame tout le monde, tu vois, puisque c'est pas minable sur des machines qui sont les machines monsieur et madame tout le monde. Du coup, ce qui est assez terrible, c'est que le Bitcoin, à l'heure actuelle, il est trusté par Bitmain, qui fabrique les ASIC pour le Bitcoin, qui sont le plus utilisés. Et bien entendu, comme il est pas con, Bitmain, ben, il utilise ses propres machines pour miner du Bitcoin pour lui. Ce qui fait qu'on en arrive à des pools qui sont affiliés à Bitmain, qui représente 40% de la puissance de calcul du réseau. Or, je rappelle que si un nœud possède plus de 50%, plus de 51% de la puissance de calcul du réseau, il peut imposer son bloc. Et donc, ça veut dire que c'est la totalité de la sécurité du Bitcoin qui est remise en question. Et c'est pour ça que la centralisation et la concentration des puissances de calcul à quelques acteurs comme ça, elle est très dangereuse pour une crypto-monnaie.
Ça nique son principe même, quoi.
Ça nique complètement son principe même. Si tu veux, le fait que Bitmain soit monopolistique ou presque dans la production d'ASIC pour Bitcoin met en danger Bitcoin lui-même. Et en fait, ça pourrait devenir le cas pour plein d'autres. Jusqu'à il y a très peu de temps, l'Ethereum était minable sur GPU, sur carte graphique. Il était miné sur carte graphique parce qu'il n'existait pas d'ASIC pour le faire. Mais ça y est, il y a des ASIC pour miner Ethereum. Et ce qui est fabuleux, c'est que Monero, qui a été conçu comme étant une monnaie qui était ASIC résistant, vient également de tomber. À tel point qu'il a fallu faire un fork de Monero. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a des gens comme le mec qui a fondé Sia Coin, qui s'appelle David Voric, qui se dit que sa monnaie est en danger parce que le Sia Coin aussi va être miné, va être minable si tu veux par. J'ai toujours du mal à utiliser ce
mot. Oui, minable, ça évoque autre chose que
évidemment.
Puisse être
miné. Bon, va être donc minable par entre guillemets par un ASIC Bitmain d'ailleurs en l'occurrence. Et donc il entre dans la course pour créer ses propres ASIC à lui. Pour pas qu'il y ait de monopole. Mais c'est quasiment peine perdue, quoi. Du coup, on en arrive à un truc qui est fabuleux, c'est que les crypto-monnaies sont créées pour être décentralisées, et à cause des ASIC, elles redeviennent centralisées, ou en tout cas, sur des oligarchies, sur des oligopoles, quoi, de minage.
Et donc, remise en question.
Et même les monnaies qui ont été conçues à la base pour être ASIC résistantes sont obligées de forquer régulièrement pour pouvoir le rester. Donc là, on a atteint, si tu veux, un point où on peut se dire que les ASIC deviennent un des principaux dangers finalement pour l'existence des crypto-monnaies dans leur ensemble, quoi. Donc c'est quand même un comble.
C'est sympa de suivre la vie des crypto-monnaies au sens large, de voir non pas comment évolue chacune des monnaies, ce serait évidemment trop compliqué dans un tech café, mais de voir comment ça évolue. Bon, déjà on a parlé évidemment de l'aspect de la consommation, mais aussi des limites sur leur conception. Bon, nul doute que ça va continuer à évoluer, et c'est ce qui rend le sujet toujours aussi passionnant. Est-ce que le HTC Exodus est rempli des promesses autour des crypto-monnaies? C'est la mission qu'on t'avait chargé avec ton journaliste d'investigation, et la réponse est donc non, Guillaume.
Non, ça sert strictement à rien. Je comprends toujours pas. Non, mais si tu veux, toutes les fonctions qui sont décrites sur le site sont reproduisibles sur n'importe quel téléphone Android de manière logicielle. Tu peux faire tout sur n'importe quelle machine, y compris une machine Android. Il suffit d'installer les bons softs. Donc j'ai pas du tout compris quel était l'intérêt de l'Exodus. Voilà, bon, c'est tout.
Bon, on continuera peut-être à creuser si jamais on a des données supplémentaires, mais à ce stade, on jette l'éponge, hein, je vous le garantis. Est-ce que tu peux nous parler de ce coup dur pour Signal et Telegram?
Ouais, alors ça, c'est un truc, là encore, il y a deux news consécutives. C'est, d'une part, il y avait Amazon qui avait interdit le domaine fronting sur ses serveurs. Et le domain fronting, si tu veux, c'est une pratique qui est assez courante, qui permet d'utiliser des serveurs comme écran pour relayer le trafic vers un autre endroit. Et donc forcément, c'est très pratique quand tu veux contourner des censures, parce que tu fais semblant en fait de te connecter au serveur de Google ou d'Amazon, et ensuite à partir de ces serveurs-là, eh ben tu te connectes n'importe où sur des sites qui sont éventuellement interdits dans le pays d'où tu inities la connexion. Donc forcément, c'était utilisé par les messageries de type Signal et Telegram. Alors Telegram spécifiquement utilisait les données de Google. Alors que Signal utilisait les serveurs d'Amazon. Et ce qui est fou, c'est qu'en cascade, les deux ont interdit le domaine fronting. Du coup, Amazon met Telegram dans la panade et Google met Signal dans la panade. Et je trouve ça, je trouve ça pas très sport de la part de Google et d'Amazon, parce que ils savent très bien, même si c'est pas autorisé explicitement, ils le toléraient jusqu'à maintenant, et ils savent très bien que ce sont des choses qui sont importantes pour la liberté d'expression dans certains pays, quoi, tu vois. Ils savent très bien qu'ils mettent en danger des gens, qu'ils mettent en danger des services qui sont importants dans plein d'endroits. Donc j'ai trouvé ça vraiment très décevant de la part d'Amazon et de Google d'interdire le domaine fronting. J'espère que la position va évoluer, mais bon, c'est pas parti pour, quoi.
Tu trouves ça naze. Bien d'accord.
C'est naze. Ouais, c'est trop naze.
On va parler du DLC pour l'usine des castors, ce jeu vidéo que tu nous avais décrit, simplement pour mentionner que, je pensais pas du tout qu'il y avait des nouvelles variantes des failles, de la faille Spectre qui ont été dévoilées. Donc c'est des variantes dans leur fonctionnement qu'on va peut-être forcément pas détaillé maintenant, hein. Mais c'était intéressant de voir que ces failles, alors peut-être que je découvre la roue, tu vas me dire si tu étais averti à ce sujet-là, mais je découvre que ces failles ont une vie avec des sous-failles, c'est-à-dire des manières différentes de les exploiter ou des conséquences que ça impose et qu'on découvre avec le temps. Je sais pas si tu étais au courant.
Oui, c'est la variante 4. Le Spectre, si tu veux, c'est... C'est un type de faille qui se base sur l'exécution spéculative d'un ensemble d'instructions sur le processeur et de la manière dont les caches répondent à ça. Bon. Donc effectivement, la manière dont travaillent les castors et la manière dont ils stockent leurs noisettes à divers endroits pour aller plus vite, quoi.
Et le premier qui nous dit que des castors ne mangent pas de noisettes, on lui arrache les cheveux.
Et donc effectivement, il y a plein de manières d'exploiter ça, parce que il y a plein d'opérations que peuvent faire les castors. Tu vois, ils peuvent faire des calculs, ils peuvent envoyer des données dans la mémoire, ou ils peuvent les lire. Et c'est un petit peu la même chose ici, c'est-à-dire que dans la variante 4 de Spectre qui vient d'être découverte, là, on est sur les load et store, c'est-à-dire les instructions load et store. C'est-à-dire que c'est la manière dont les castors stockent les noisettes ou vont les retrouver dans leur petite réserve qui est proche d'eux. Normalement, quand tu vas chercher une noisette, ou quand tu stockes une noisette, il faut être sûr que tu la mets au bon endroit. Et parfois, l'endroit où tu la mets, elle va dépendre des opérations que t'as fait avant, et en particulier des endroits où t'es allé chercher d'autres noisettes pour faire le calcul avant, tu vois. Et du coup, en général, on attend avant d'être sûr de mettre une noisette à un endroit et de la répercuter directement dans le champ beaucoup plus loin. Bon. Le truc, c'est que, comme d'habitude, l'exécution spéculative, parce que c'est toujours ça, c'est toujours le problème de l'exécution spéculative, en exécution spéculative, le castor, il est complètement hyperactif, et donc il fait le truc quand même. C'est-à-dire qu'il va mettre la noisette à l'endroit de la petite réserve, où il pense que c'est bon. Sans attendre d'être sûr qu'il est allé chercher les noisettes qui étaient nécessaires au calcul avant.
C'est vraiment des drogués, tes castors.
Et du coup, peut-être que cette noisette-là, elle devrait pas être là. Mais lui, il n'en sait rien. Ce sera le policier castor de venir, de contrôler tout ça, et le policier castor, il va voir que la noisette, ça va pas, donc il va la virer de là, il va la foutre dans la poubelle, et évidemment, le castor travailleur, il va devoir refaire tout le boulot. Mais le truc, c'est que entre le moment où le castor cocaïnoman pose sa petite noisette dans sa petite réserve de travail là, et le moment où le castor flic il va venir contrôler qu'elle a bien le droit d'être là, et il se passe un petit moment pendant lequel eh ben cette donnée peut être exploitable de manière détournée, de manière particulièrement tordue, mais exploitable quand même. Alors pour le moment, cette faille donc qui rentre dans le cadre de Spectre parce que c'est du même type, mais donc c'est une variante et c'est la quatrième. Elle n'est pas encore exploitée dans des vraies attaques et elle est très très compliquée. Elle vient juste de sortir. Bon voilà, il y a des patchs qui arrivent comme d'habitude, etc. etc.
Bah écoute, merci. Cette image est décidément toujours aussi captivante des petits castors. Toujours, encore une fois, hein, ce sont des failles, théoriques. Enfin, disons qu'elles sont réelles. Mais après, la mise en application et le risque est évidemment à mettre en perspective des difficultés qu'on peut avoir pour les exploiter. Mais voilà, c'est une petite vie de ces failles qui continue sur toute cette année 2018. Pendant ce temps, Elon Musk a fait des annonces, une petite présentation de ce que propose la Boeing Company. Il n'y a pas de grande révolution technologique dans ce qui a été présenté, simplement des confirmations, j'allais dire, et puis des explications de certaines visions d'Elon Musk. Quelque chose que j'ai trouvé quand même super intéressant et qui était, j'allais dire, l'axe central au moins du début de la conférence, c'est la vision qu'il a de dire que bon, il y a besoin de faire évoluer le transport collectif, le transport dans la ville, etc. Mais que l'idée d'exploiter plus largement le ciel avec des voitures volantes ou des dispositifs analogues, des espèces de méga drones, ne sont juste absolument pas viables, trop dangereux, trop bruyants, trop impactants pour une société qui s'est installée dans une ville, et que c'est vachement plus intéressant d'aller creuser sous terre, là où finalement ça va gêner beaucoup moins de monde, et on va pouvoir avancer beaucoup plus vite avec peut-être moins de régulation. T'as suivi toute cette présentation, Guillaume ?
Oui, effectivement, il descend les voitures volantes, ça c'est marrant. Moi je pense qu'il a pas vraiment de tort, parce que c'est vrai que ça me paraît quand même aller chercher très très loin, quoi. Les taxis volants d'Uber, là j'y crois moyen quand même. En tout cas, dans l'immédiat, quoi, l'immédiat, c'est 2023, pour moi c'est l'immédiat, quoi.
Ouais, ça me paraît vraiment
très très tôt. Et donc oui, il a des arguments qui sont assez qui se tiennent, quoi. C'est vrai que je sais pas combien d'entre vous, chers auditeurs, avaient déjà été en présence d'un hélicoptère à moins de hélicoptère qui décolle ou qui atterrit. Effectivement, c'est un tout petit peu bruyant quand même, hein. Donc c'est vrai qu'en avoir des milliers et des milliers sur des pistes, même s'ils sont tout petits, ça risque de faire un sacré bordel, donc ça peut poser un souci, effectivement.
Il y a le bruit, et ouais, il y a tous les problèmes que ça soulève, effectivement.
Ouais. Après, il a donné des indications sur sa nouvelle foreuse. Il veut faire une forêt sans fil. Tu sais, vous avez les perceuses sans fil. Lui, il veut faire une forêt sans fil parce que, grosso modo, il trouve que les foreuses actuelles sont trop lentes. Elles sont quand même 10 fois plus lentes qu'un escargot. Et lui, il veut battre l'escargot. D'ailleurs, ils ont un escargot qui s'appelle Gary. Et je sais pas, peut-être qu'ils le mettent à côté de la foreuse pour faire des courses. Je sais pas trop. Toujours est-il que ça a l'air d'être l'objectif de battre Gary. Et de faire évidemment tout ça avec une foreuse électrique sans fil, parce que bah évidemment avec Tesla, si tu veux, il y a des batteries partout.
Ah oui.
Et il c'est assez malin finalement, parce que il essaie de rentabiliser toute cette terre, tous ces matériaux, si tu veux, qu'il enlève quand il fait des tunnels. Il veut les rentabiliser en fabriquant des briques, voilà, des briques emboîtables comme des Lego, ou juste des briques d'ailleurs, et les vendre. Donc vendre les briques, c'est une bonne idée, je pense, effectivement.
Vive les briques.
C'est pas mal quand même. Et il a quand même parlé de The Loop, on connaissait Hyperloop, mais quand les loops elles sont pas hyper, elles sont quand même sympas, puisque ce qu'ils appellent le loop, c'est tout simplement une sorte de métro, mais à base de voitures, qu'ils appellent un pod, tout simplement. Oui, pod est très présent finalement dans ce
oui,
podcast.
Oui, il est beaucoup avec nous. Hein.
Et donc, dans un pod, il peut y avoir 16 personnes, et il voyage à 241 km/h. Maintenant, évidemment, ça me fait rigoler, désolé. Donc, enfin, c'est un système quand même qui est assez intéressant, puisque ça permettrait, par exemple, d'aller de downtown LA, donc à l'aéroport en 8 minutes seulement. Donc, c'est quand même vraiment intéressant, et ce serait $1 par ticket. Donc, c'est très très vraiment pas mal. Et évidemment, tous ces loops pourraient connecter des hyperloops qui, eux, par contre, s'occuperaient des transports entre les grandes villes avec des distances un petit peu plus grandes, quoi. Voilà. Sinon, si vous avez si vous avez commandé votre lance-flamme, eh bien, il devrait arriver d'ici 2 semaines.
Ah, je me réjouis. Je me demandais comment j'allais allumer mon barbecue. Je suis ravi de savoir que ça arrive. On enchaîne, on va essayer d'aller assez vite. Parmi la foultitude de casques de réalité augmentée auxquels on aura accès demain, il faudra peut-être compter sur le casque, selon ce que nous indiquent les rumeurs de Google. Tu y crois, toi, à Google qui pourrait proposer un casque de réalité augmentée demain?
Ben, j'espère bien qu'ils vont le faire. Écoute, il faut bien suivre Microsoft et les HoloLens. Et donc, ouais, il y aura un truc qui s'appelle le Google A65, qui serait un casque de réalité virtuelle, qui serait probablement un peu meilleur que HoloLens, puisqu'il sera beaucoup plus jeune, et il sera basé sur un Qualcomm, donc sur un processeur ARM, et pas sur un processeur Intel. Voilà, un processeur quadricœur, et probablement des lunettes plutôt rigolotes. J'espère qu'elles seront moins chères que les lunettes de Microsoft, qui sont inabordables. Mais bon, on verra.
Pendant ce temps, et tu évoques la marque Intel, on va relayer quelques petites news. Ça va être une micro-chronique des composants. On commence avec Intel qui patauge dans la semoule, et c'est pas nouveau, en fait.
Ben ouais, mais bon, là, tu sais que pendant longtemps, j'ai dit, bon, Intel, ils ont quand même une avance industrielle.
Ouais, qui est vraiment significative, j'ai souvent entendu dire ça.
Ah ouais, j'ai dit souvent. Mais ça, c'était il y a plusieurs années, en fait. Hein,
et là, à force.
Au fur et à mesure que le temps passe, eh ben, c'est de moins en moins vrai, et là, c'est carrément plus vrai. Je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, Intel, ben, il est plus en avance par rapport à TSMC. Et si tout va bien, il pourrait être resté dans la course, mais c'est tout. Il avait 3 ans d'avance, et ben, ces 3 ans se sont évaporés, quoi. Si on fait il y a des articles qui regroupent ça très très bien, hein, et qui montrent bien, effectivement, que pour la génération 7 nanomètres, alors déjà, la génération 10 nanomètres, bon, ils sont encore compétitifs, mais il faut encore qu'ils sortent les machines 10 nanomètres, et c'est là la news, c'est que effectivement, on a vu apparaître 2 ordinateurs qui sont équipés de machines, enfin de processeurs Intel gravés en 10 nanomètres, les fameux Cannon Lake. Donc il y a un Core i3 et un Core M3. Enfin, c'est une news de merde, parce que en réalité, ce sont 2 processeurs basse consommation double cœur, donc ça veut dire que ça fait partie des processeurs les moins complexes à produire, et donc sur lesquels probablement ils ont les moins de problèmes de rendement, et les processeurs quadricœur et les vrais processeurs performants, on va les avoir en 2019, quoi. Donc c'est moche, parce que bah, le 10 nanomètre, si tu veux, il a 2 ans de retard, il s'est pris année sur année dans la tronche, et bon, bah, finalement, ça finit par se voir, quoi.
Dommage.
Alors, qu'est-ce qui se passe en Israël? Intel, quand même, évidemment, il a quand même conscient de ça. Bon, il y a une news quand même intéressante qui dit que ils vont dépenser environ 5 milliards de dollars sur l'extension de leur Fab 28 en Israël. Voilà, donc évidemment, le ministre israélien se réjouit de tout ça. Hein. Les travaux dureront jusqu'en 2020, ils vont créer plein d'emplois, et donc ils vont faire plein de cadeaux fiscaux à Intel. Bon, c'est quand même absolument nécessaire, parce que, bon, comme je disais, ils patauge dans la semoule. Ben oui, hein, et donc il va falloir se réveiller un petit peu, se sortir les doigts de où, je pense.
C'est vrai que s'il y a bien un truc auquel je pensais il y a pas longtemps, c'est que j'avais intégré, si tu veux, au fil des chroniques des composants des épisodes de Tech Café, qu'Intel, ils étaient dans la catégorie des « je suis tranquille », quoi. Bah, du coup, ça vacille un petit peu. Un acteur de plus, en plus, qui risquerait de concurrencer tout ça.
Ouais, bah alors justement, c'est vrai que Qualcomm pourrait avoir un Samsung comme adversaire dans le futur. Alors, faut se rappeler évidemment qu'ils produisent des puces, mais qu'ils les utilisent dans leurs propres produits. Ils les commercialisent pas pour les concurrents. Or, il y a eu un truc, un événement dont on n'a pas vraiment parlé, on n'a pas vraiment eu l'occasion d'en parler dans Tech Café, mais ZTE s'est fait taper sur les doigts par Trump et s'est fait interdire l'accès aux États-Unis. Et en particulier, il s'est fait interdire d'utiliser les technologies américaines, ce qui fait que ZTE ne peut plus utiliser les puces Qualcomm.
Et pour être bien dans la merde, on peut le dire. Hein, ZTE,
si ZTE utilise plus les puces Qualcomm, ils ont plus de puces du tout, et c'est vrai qu'un ordinateur sans CPU, c'est pas très utile. Donc, ils sont à 2 doigts de faire faillite, et c'est là chaud. Que Samsung arrive. Puisque Samsung, lui qui a des puces, pourrait proposer ses puces à ZTE, et du coup, il deviendrait un acteur, un nouvel acteur sur le marché des composants, puisqu'il pourrait devenir non seulement un concepteur de puces pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Il pourrait carrément concurrencer Qualcomm sur leur propre terrain, parce que rien ne les empêche de vendre leurs puces à tout le monde. Donc ça pourrait sauver ZTE, et ça pourrait faire beaucoup d'ombre à Qualcomm, qui, pour le moment, se comporte surtout comme un gros patent troll. Donc, écoute, peut-être que eux aussi, ça les encouragera à se lever les doigts. Bon.
J'ose une digression. Pourquoi est-ce que Samsung, selon toi, n'a jamais commercialisé ses Exynos auparavant, ses puces, et les a exclusivement réservées à ses propres usages?
C'est pas très très clair, mais pourquoi Apple fait pareil? Tu vois, il y a une forme d'intégration verticale. Ils sont intéressés par des puces pour eux. Ils peuvent totalement, enfin surtout quand ils font ça, en fait, ils peuvent tout contrôler, en particulier la production. Tu vois, ils savent exactement combien ils ont besoin.
Histoire de volume.
Enfin,
ouais.
Ça, je pense que c'est assez facile. Alors que bon, vendre des puces à d'autres, bon ben il faut des contrats. On n'est pas forcément sûr. Bon, après, il y a forcément aussi, enfin il y a probablement aussi des philosophies d'entreprise derrière. Hein.
Pour ceux qui trouveraient le paperboard un peu has-been, on a probablement la solution. Enfin, quand je dis on, c'est Microsoft qui a présenté le Surface Hub 2, donc la continuité du Surface Hub tout court. On peut le présenter rapidement. C'est une espèce de gros écran, une espèce de télé LED telle que vous l'avez dans votre salon, très très plate, qui peut se mettre en verticale ou en horizontale. Résolution 4K, clairement destinée aux professionnels. Vous pouvez la pivoter d'ailleurs horizontalement ou verticalement et la continuité de l'image se fait, un petit peu comme si l'image était dans l'écran et que était derrière l'écran et que l'écran laissait entreapercevoir une partie de cette fenêtre. Ça permet des usages qu'on peut imaginer de bureautique informatique partagée avec de la visio, de la présentation, de l'interactivité, etc., etc. Et la possibilité de brancher jusqu'à 4 Surface Hub 2 pour en faire un maxi giga Surface Hub 2 x 4, ce qui paraît vraiment alléchant. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourra forcément facilement voir le jour en entreprise. Le premier Surface Hub coûtait près de 9 000 $ pour le modèle en 55 pouces. On a hâte de connaître le prix de celui-ci. Est-ce que tu trouves ça intéressant?
Mais moi, je pense qu'on en a besoin d'un pour préparer ta café. Hein,
oui, clairement. Il faudrait que Microsoft nous en mette un à disposition pour préparer ta café. On est d'accord. Non, c'est pas possible.
Bah évidemment, bah sans doute, bien sûr. Et on peut même faire un petit peu de pub pour eux si
on
veut.
Ah oui, on en parlera, on fera notre avis sur le sujet. On sera très critique. Oui, ça marche pas très bien.
Et puis on peut inviter Kassim beaucoup plus souvent.
Absolument.
Il s'y connaît bien.
Allez, on va vous laisser avec toutes nos news autour des différents thèmes qui avaient été préparés pour cette émission et puis les news en bref. Je pense qu'on a bien couvert l'actu tech de cette semaine, j'en perds mon latin. Et on enchaîne avec les bonus. Guillaume, est-ce que tu es venu avec quelque chose dans ta besace pour les bonus de cet épisode 87 de Tech Café?
Bah, je pensais que non, mais finalement, bah, pourquoi pas.
Ah.
Tu sais qu'il y a pas mal d'animés sur Netflix et j'ai vu qu'il y avait Gantz Zero. Et ça m'a rappelé à l'époque où j'ai lu Gantz, c'était il y a quelques années. Parce que c'est pas tout jeune Gantz, en fait, hein. Ça a commencé en 2000 et ça s'est fini en 2013. J'ai fini la série d'ailleurs. Et, bon, c'était une fin bizarre, mais un petit, bon, enfin, c'était une fin quand même. Enfin, bref. Donc Gantz, c'est quand même, c'est beaucoup de baston, c'est de l'action en combinaison noire moulante. Et c'est beaucoup d'inventivité graphique, c'était plutôt cool. Et du coup, j'ai vu le film, et puis bon, franchement, je peux pas vraiment le recommander, parce que ils ont eu l'idée bizarre d'adapter le milieu, voire la fin, en fait, hein, du manga. Et si tu connais pas, c'est pas la peine de rentrer dedans, quoi. C'est, voilà. Même si, tout compte fait, c'est pas mal, en fait. Donc je recommande pas vraiment à tout le monde, mais du coup, c'est pas vraiment une recommandation, mais je peux me rattraper en recommandant Inuyashiki, qui est un autre manga de Oku Hiroya, qui est l'auteur de Gantz. Et c'est un manga vraiment pas mal, donc c'est l'histoire d'un quinca loser, qui a rien pour lui, et qui se prend un jour une soucoupe volante sur la gueule, et donc il meurt, et les E.T., les extraterrestres, donc c'est un petit peu piteux, et du coup il décide de le reconstruire comme un cyborg, et du coup il a des super pouvoirs. Voilà. C'est assez marrant comme début, mais évidemment c'est pas le seul, et donc il va y avoir tout un truc avec l'autre personne qui va aussi avoir le même destin, j'en dis pas plus. C'est une histoire originale, c'est très bien dessiné, c'est en 10 tomes, je crois, et il y a un animé aussi dessus que j'ai pas vu, donc voilà, si vous aimez les mangas, et si vous connaissez pas Inuyashiki, c'est vraiment pas mal.
Et juste pour info, dans Gantz, il y a un diagramme.
Diagramme de Gantz.
Diagramme de Gantz. Bon, c'est pas grave.
Désolé.
C'est pas grave. Pour ma part, mon bonus sera très simple puisque je vais me faire honteusement de l'auto-promo. J'ai lancé une techno du futur, Guillaume. On parle de réalité virtuelle, de réalité augmentée. On parle de crypto-monnaie.
T'as lancé un fanzine.
Et bah presque. Je lance ma newsletter. L'idée, elle est très très simple. C'est que dans les différentes veilles que je peux faire, que ce soit sur la tech, l'amélioration du tout quotidien, etc., il y a beaucoup de choses qui ressortent dans, évidemment, dans Tech Café, dans ReLife, parfois sur mon blog et parfois sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a des petits articles que j'aime bien, mais qui rentrent dans aucune case, et qui permettent de s'éveiller un peu sur du sujet divers et varié. Et ben, j'ai créé ma newsletter, qui vous permet de consulter ces petites recommandations que je peux voir passer dans le cadre de ma veille. Et puis, accessoirement, si jamais vous êtes un peu allergique au fonctionnement des podcasts avec les applications, qu'il faut s'abonner, comprendre comment ça fonctionne, et ben, si vous voulez vous simplifier la vie, vous pouvez vous abonner à ma newsletter et puis vous recevez tous les podcasts que je peux produire ou dans lesquels je pourrais être amené à être invité. Donc c'est peut-être une manière un peu plus simple pour vous de suivre ce que j'ai à dire et puis de découvrir des petites choses que je pourrais être amené à vous recommander. Donc c'est Guillaume, génial. J'attends ton détour, j'attends au détour que tu viennes t'inscrire à ma newsletter. Je compte sur
mais
toi.
Mais je vais le faire. Mais je trouve ça absolument génial de faire de l'auto-promo pour un truc qui fait de l'auto-promo.
C'est excellent. Il y a une forme de mise en abîme. Je pense que je peux aller encore plus loin à l'étape suivante, mais il faut que j'y réfléchisse un petit peu. Merci beaucoup Guillaume pour toute la préparation de cette émission et puis la couverture de tous ces articles autour de la tech et toute cette veille qu'on peut faire et que tu as faite de ton côté. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur internet, Guillaume?
On me retrouve en combinaison de mort moulante avec un gros truc. Non, c'est pas ça. Non, on me retrouve sur Telegram des fois.
Oui, c'est vrai, on peut discuter avec toi sur Telegram. Et je te remercie d'ailleurs. Un endroit, merci d'ailleurs de rappeler qu'il y a ce groupe Telegram qui existe, qui continue à vivre. On a dépassé les 200 et quelques membres. Je compte plus 219 membres. Donc, il continue à y avoir des personnes qui nous rejoignent. On parle de tech, mais pas que. Et si vous avez envie de continuer à échanger avec nous, ça peut être un canal assez privilégié. Vous pouvez assez vite mettre en sourdine le canal pour pas être bouffé par toutes les notifications. Mais c'est un canal privilégié pour échanger entre nous. Merci en tout cas énormément pour votre fidélité, pour vos retours, pour vos soutiens et pour tout ce que vous pouvez apporter pour faire connaître Tech Café autour de vous. Merci beaucoup de votre fidélité. On se donne rendez-vous dans une semaine dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à tous.
Oui, ciao, ciao.
Et à toutes. Ciao.
À toutes aussi, bien sûr, bien entendu. Gros bisous.